Le meilleur des mondes, François Saltiel.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui analyse la manière dont le numérique et les nouvelles technologies bouleversent nos vies. Et ce soir, on place les récits historiques au centre du jeu, enfin plus exactement au centre des jeux vidéo, une industrie florissante qui dépasse toutes les attentes. Une franchise mondiale comme Assassin's Creed propose de revisiter certaines périodes historiques de la Révolution française à l'époque des Vikings. Comment ces jeux vidéo participent-ils à la transmission de la connaissance? Comment l'interactivité permet-elle de revisiter notre passé? Comment trouvent-ils leur place dans les musées ou dans les écoles? Les jeux vidéo courent-ils le risque de simplifier ou de réécrire notre histoire? Pour en discuter, nous recevons en studio Olivier Coquart, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien et enseignant notamment en classe préparatoire à Henri IV. Vous êtes plutôt favorable à l'usage des jeux vidéo comme porte d'entrée historique. En studio toujours, Romain Vincent, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant en histoire-géographie en collège et animateur de la chaîne YouTube Jeux vidéo et histoire, mais aussi en pleine réalisation d'une thèse intitulée « Du ludique au pédagogique, ce que les enseignants font aux jeux vidéo ». Réponse un peu plus tard dans l'émission. À distance depuis Montréal, Maxime Durand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien en chef chez Ubisoft, éditeur entre autres d'Assassin's Creed, et vous êtes aussi directeur du module éducatif Discovery Tour, dont on parlera également dans ce meilleur des mondes. Un peu plus tard dans l'émission, nous serons en ligne avec Léane Picron, chef de projet au sein de la société Render, qui ressuscite notre patrimoine grâce à la réalité virtuelle. Enfin, Marcus Dupont-Bénard, journaliste au média Numérama, livrera sa chronique de la semaine. Vous avez maintenant le programme de cette soirée. Notre partie se jouera en direct et jusqu'à 22h sur France Culture.
Les jeux vidéo et l'histoire, c'est un véritable scandale. Depuis que les jeux existent, ils pillent notre passé pour construire des univers spectaculaires. Et franchement, quand on décide de passer de l'autre côté de la manette pour étudier ça de près, le résultat fait froid dans le dos. Regardez ça. On peut vraiment jouer à Hitler a gagné la guerre? C'est pas du révisionnisme, ça? Pire, comment reconnaître le vrai du faux dans ces fresques historiques où tout se mélange? D'ailleurs, pourquoi se retrouve-t-on presque toujours dans la peau d'un soldat américain quand on joue à la guerre? On défend quoi comme valeur? Dans le genre lavage de cerveau, y a pas mieux que les jeux. Surtout vu le paquet de clichés qu'on doit subir dans les jeux historiques. Pas de vikings sans casque à cornes, pas de Moyen-Âge sans barbares. Eh oh, doucement le Moyen-Âgeux là. T'aimes pas qu'on dise du mal des jeux vidéo? Remarque, maintenant que j'y pense, tout ce que je viens de dire sur les jeux vidéo et l'histoire, ça ne serait pas justement un énorme paquet de clichés?
Lol.
Bon bah, tout ça, ça mérite une série, non?
Et une très bonne série qui a été diffusée en 2018, réalisée par le youtubeur Nota Bene. Ça mérite une série, ça mérite aussi de s'y replonger 3 ans après pour en faire une émission et continuer à embrasser ces différentes questions. Alors déjà, Olivier Coquart, première question. Quel est l'apport du jeu vidéo dans notre relation à l'histoire? Comment vous l'analysez? Comment vous l'interprétez-vous?
Le jeu vidéo, c'est exactement comme le roman. Ça permet d'entrer dans l'histoire par le biais de la fiction. Alors, c'est une fiction qui, à la différence de la fiction romanesque, a l'intérêt ou l'inconvénient d'obliger les gens à agir. Mais en dehors de ça, les élèves, les étudiants, les jeunes, les vieux qui se mettent à jouer à un jeu vidéo historique vont, pour certains d'entre eux, avoir envie d'aller plus loin. Et donc, c'est pour moi une porte d'entrée.
Comme peut-être pour votre cas et dans votre parcours, le cinéma a été peut-être un des moyens de susciter une vocation chez vous, une vocation.
Ah, je ne remercierai jamais assez Jean Marais, Claude Brasseur et l'ensemble des acteurs et des actrices dont je suis tombé régulièrement amoureux d'avoir incarné les personnages de l'époque de Vidocq, de l'époque de Louis XIII, de Louis XIV, enfin, moi je suis entré dans l'histoire grâce à ça. L'histoire pour moi, c'est d'abord de l'histoire, enfin, on en raconte.
Et donc vous pensez que de la même manière aujourd'hui, les jeux vidéo peuvent faire naître des vocations?
C'est un nouveau média.
Romain Vincent, quel est votre avis justement par rapport à ça? Peut-être un peu plus nuancé ou...
Peut-être un peu plus, mais c'est vrai que quand dans la recherche on s'intéresse aux effets du jeu vidéo sur les apprentissages, c'est jamais très clair, et encore moins en histoire, on y reviendra, mais le jeu vidéo est... dans ses mécaniques de jeu, n'est peut-être pas le meilleur dispositif pour faire apprendre des faits précis ou des événements, même s'il en parle dans son récit. Et c'est vrai que quand on pointe ça, il y a souvent cet argument qui arrive derrière de dire « Oui, bon, en jouant, on apprend peut-être pas beaucoup, finalement. » Enfin, on apprend à jouer, déjà, c'est quelque chose d'important. « On apprend peut-être pas beaucoup, mais ça donne peut-être envie aux joueurs d'aller ouvrir un livre. » Alors, ce qui est vrai, hein. Comme effet. Après, oui, je nuancerais en disant que c'est peut-être un petit peu socialement situé quand même, comme disposition vis-à-vis d'un jeu, vis-à-vis d'œuvres culturelles.
C'est-à-dire qu'il faut encore faut-il avoir des livres chez soi,
bah, parfaitement. Faut ça, faut voir un petit peu dans quel contexte familial vous allez avoir des parents qui vont guider les enfants, les joueurs vers des pratiques considérées comme plus légitimes. Et puis deuxième chose, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas un effet propre aux jeux vidéo, c'est un effet propre à la fiction, on va dire. Mais à mon avis, il est quand même assez minoritaire.
Mais néanmoins, pour rebondir sur ce que vous dites, il se pourrait qu'effectivement, que socialement dans certaines familles, il y a des livres qui ne sont pas présents, mais pour le coup, il y a des jeux vidéo qui arrivent et qui y rentrent. Et qui y rentrent via, justement, un canal, là où les livres ne sont pas là. Donc le jeu vidéo peut permettre de connaître un peu plus la Grèce, de connaître un peu plus, je sais pas, la Rome antique, ou de se déplacer dans des différentes pérégrinations.
Oui, mais je sais pas, mais je suis pas sûr qu'il rentre pour apprendre, en fait.
Non.
Alors que les autres dispositifs, oui, mais les jeux vidéo, les Assassin's Creed, etc., quand vous interrogez les joueurs, et c'est dans le cadre de mon travail de thèse, j'interroge un petit peu les élèves, eux, ils me disent qu'ils font les Assassin's Creed pour les combats, pour les missions, pour l'exploration, pour améliorer leurs armes et compagnie.
Alors justement, vous avez cité le nom d'Assassin's Creed, qui est effectivement une référence, hein, une franchise mondiale. Et puis on a la chance d'être en communication depuis Montréal, qui est un endroit où d'ailleurs l'éditeur français se trouve, Ubisoft, avec vous, Maxime Durand. Est-ce que vous pouvez déjà nous définir, nous rappeler ce que c'est qu'Assassin's Creed? Parce que je sais que j'ai quand même certains auditeurs et auditrices de France Culture qui m'écoutent en direct en ce moment et qui ne connaissent pas forcément ce jeu, ou pas encore.
Donc, Assassin's Creed, c'est une série de jeux d'action et d'aventure qui utilise des décors, des environnements à saveur historique, qui touchent à plusieurs périodes. Donc, le premier Assassin's Creed est sorti en 2007. Il traitait de la Troisième Croisade, donc au Proche-Orient. Et puis, dans cette aventure-là, il y a une grande partie qui est fantaisiste, dans laquelle on incarne deux sociétés fictives qui ont des noms et des ramifications historiques réelles, qui sont les Assassins et les Templiers. Et c'est un jeu dans lequel on est souvent confronté à une notion d'ordre contre le chaos. Donc ça, souvent, ce sont des termes qui sont intéressants dans l'histoire de l'humanité et qui sont approchés et qui sont abordés dans les différentes périodes de l'humanité qui sont touchées par la série de jeux Assassin's Creed.
Et justement, pour rebondir par rapport à notre questionnement précédent, pour vous, ce jeu vidéo en particulier, à votre avis, a pu faire naître des vocations, a été une porte d'entrée vers un intérêt historique? Et pour revenir sur les propos de Romain Vincent, peut-être là ou chez des familles qui seraient peut-être pas des familles où toutes les ressources et tout le capital culturel se trouvent à portée de main.
Mais tout à fait. C'est indéniable. Après, c'est vrai que c'est très difficile d'avoir un portrait de tous les joueurs à l'échelle mondiale. Donc, des plus de 165 millions de joueurs, je crois, qui ont joué aux différents Assassin's Creed jusqu'à aujourd'hui. Ceci dit, on a énormément de témoignages, soit de fans qui nous contactent ou qui vont publier sur les réseaux sociaux ou qui vont aussi consommer les expériences facultatives qui sont proposées dans les musées, qui sont proposées dans la publication d'œuvres qui retranscrivent les périodes historiques. On pense entre autres au magazine Historia qui fait un numéro hors série à chaque année sur le dernier né d'Assassin's Creed et puis qui rencontre un succès monstre parce qu'il y a un appétit pour l'histoire. Donc pour moi, c'est en effet une très grande porte d'entrée pour l'histoire, même si évidemment on cherche pas à former 165 millions d'historiens par la suite.
Alors c'est une porte d'entrée, puis c'est aussi des passerelles effectivement entre le monde du jeu vidéo, qui est un monde très particulier, avec celui des historiens. Vous avez prononcé le nom de la revue Historia. Je crois que Olivier Coquart, vous connaissez bien cette revue, et puis il me semble que vous connaissez aussi bien un certain épisode d'Assassin's Assassin's Creed sur, je crois, la partie de la Révolution française à laquelle votre, la revue a participé, et vous indirectement.
Oui, alors indirectement, effectivement, j'ai eu l'occasion de voir un petit peu les contenus. J'ai même eu l'occasion de discuter de façon indirecte avec un dirigeant politique actuellement très, très, très en vogue et très à gauche à ce sujet. Sur un débat d'ailleurs qui revient un peu à ce qu'on disait.
Vous pouvez le citer. Hein,
Oui, donc Jean-Luc Mélenchon s'était ému que Robespierre ait l'air très très méchant et soit effectivement très très méchant dans le Assassin's Creed en question. Alors moi, il se trouve que je suis historien de la Révolution française, que politiquement je serais plutôt très très proche des idées de Jean-Luc Mélenchon ce qu'il avait dit m'avait énormément surpris, parce que je pense qu'il y a deux types de joueurs. Il y a ceux pour lesquels Assassin's Creed ou n'importe quel jeu, on va essentiellement essayer de dégommer du méchant. Mm-hmm. Et que ce méchant ait soit un hydre à trois têtes ou un révolutionnaire n'a aucune importance.
L'important, ce qui compte, c'est un ennemi. Il faut quelqu'un sur qui tirer.
Voilà, et c'est quelqu'un sur qui tirer. Et puis il y a ceux qui vont avec une espèce de curiosité initiale et dont je suis certain qu'une partie va aller plus loin dans cette curiosité, parce que justement ce qu'il aura vécu en jouant alors à Assassin's Creed, à Crusader Kings, à d'autres jeux, l'aura stimulé. D'autant que beaucoup de ces jeux offrent, sans offrir des livres, ils offrent un certain nombre de vignettes explicatives dont la qualité scientifique est plus ou moins bonne, mais je dirais que ça n'a pas d'importance. La porte se transforme en pièces. Hein, la porte ouvre vraiment sur des pièces. Mmh. Ensuite, il n'y a plus qu'à les franchir les unes après les autres. Je suis moins pessimiste, les mômes qui, chez eux, n'ont pas de bouquins, ils n'auraient pas eu plus de bouquins en entrant dans l'histoire par le biais du roman historique, par le biais de la BD historique. Je veux dire, on se retrouve confronté à ces problématiques sociales. Ceux qui veulent découvrir l'histoire et qui n'ont pas chez eux les moyens de le faire, ils sont obligés de passer par le truchement d'une institution qui actuellement souffre énormément et qu'on est en train d'attaquer sur ce plan-là, qui s'appelle l'éducation nationale.
Alors, on verra justement qu'entre l'éducation nationale et le jeu vidéo, parfois, il peut aussi y avoir quelques passerelles et quelques rencontres. Mais juste pour revenir sur ce que vous disiez, qui me semblait intéressant sur l'affaire, entre guillemets, la mini-affaire de Jean-Luc Mélenchon, c'était en 2014, hein, pour rappeler le contexte, où il voyait donc une relecture un peu réactionnaire de la Révolution française. Est-ce que ça, justement, Romain Vincent, quand on a des jeux vidéo qui offrent une certaine vision de l'histoire, est-ce que il n'y a pas un risque de simplification, parfois même d'une vision un peu politique de la manière dans l'histoire est vécue? Je pense par exemple, pour sortir du phénomène de la Révolution française, à beaucoup de jeux vidéo qui sont des jeux vidéo de guerre, où on pourrait tout à fait imaginer que c'est quand même une forme de soft power encore américain qui figure, voire même une propagande américaine. C'est toujours les bons sont toujours les mêmes et les méchants sont toujours les mêmes.
Oui, c'est vrai que si on prend les de grosses franchises de first person shooter comme Call of Duty ou Battlefield, c'est vrai que notamment les Call of qui sont conçus par des développeurs américains, on a parfois un récit qui est orienté après faudra peut-être je vais être celui qui nuance un peu, qui va être un peu se dire bon. Les effets sont peut-être pas si clairs. Call of Duty, par exemple, c'est vrai que vous avez le Call of Duty World War II, qui est sorti en 2017, je crois, qui porte donc sur la Seconde Guerre mondiale. Vous avez une mission un petit peu curieuse sur la libération de Paris, où c'est des soldats américains qui libèrent la ville quasiment seuls, vaguement assistés de la résistance française, mais là, oui, on a une expression du soft power américain. Après, j'ai toujours un peu de mal de visualiser les joueurs de jeux vidéo comme des sortes de carapaces un peu vides ou de gens un peu idiots qui vont forcément avaler toutes les représentations que le jeu les renvoie et les considérer comme des faits avérés. Je pense qu'un joueur de jeux vidéo est conscient qu'il est en face d'une fiction, alors qu'il peut raconter évidemment des choses, un récit historique, mais quand même, oublions pas ça. Et de plus, ces jeux, les Call of, les Battlefield, les Medal of Honor, sont quand même joués d'abord pour le multijoueur. C'est-à-dire que souvent, en fait, les campagnes, les missions, vous interrogez les joueurs, ils vont dire, non, je l'ai pas fait, ou alors, je les ai fait en 7-8 heures, et après, j'ai passé 100, 200, 300 heures sur le multijoueur, parce que dans ces jeux-là, c'est ce que les joueurs recherchent, c'est la précision, le comment appeler ça en fait, l'excitation en fait, du jeu. C'est pas encore une fois d'apprendre. Il y a un problème quand on parle des jeux vidéo et d'histoire, c'est le, on va partir du principe que puisqu'il y a de l'histoire dans les jeux vidéo, le joueur va forcément l'apprendre et l'intégrer comme un apprentissage quasi scolaire, ce qui me semble à relativiser. Et on oublie aussi l'activité du joueur.
Bien sûr, on a bien compris qu'effectivement la première intention effectivement du jeu vidéo, c'est de prendre du plaisir et c'est un divertissement. Mais comme on pourrait dire qu'une première intention d'aller dans une salle de cinéma, c'est aussi de vivre deux heures d'émotion et de grands spectacles, sans pour autant, malgré tout, avec ce récit cinématographique, en comprendre quelque chose. Encore une fois, dans la question de port d'entrée. Mais j'aimerais juste poser une petite question à Maxime Durand, justement, qui lui participe à la conception de ces jeux, donc est bien placé pour nous en parler. Comment ça se passe pour vous par rapport à la portée de ce jeu? Le fait que, il me semble que quand vous mettez en place un Assassin's Creed, vous travaillez quand même avec de nombreuses personnes, ça prend du temps, il y a plusieurs historiens qui travaillent avec vous, donc il y a quand même vraiment une dimension de s'approcher au plus près d'une forme de vérité historique, tout en respectant bien sûr la réalité d'un jeu vidéo, hein, il s'agit de jouer, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur, j'imagine.
Mais d'abord, ce qu'on peut dire, c'est qu'on demande aux jeux vidéo quelque chose qu'on ne demande plus aux films, aux séries télé, aux romans ou à la BD. C'est quelque chose qu'on leur demandait il y a déjà un demi-siècle. C'est d'être parfait, c'est d'être un outil qui répond à tous les besoins, à tous les besoins sociaux. Donc, on est très critique actuellement avec l'univers du jeu vidéo parce que nécessairement, c'est le médium culturel en émergence qui est très puissant et qui doit se défendre. Donc, il y a tellement eu d'études, par exemple, sur des conséquences potentielles de la violence par rapport à l'utilisation du jeu vidéo.
On n'en est plus là. Enfin, en tout cas, on n'en est plus là dans cette émission.
Aujourd'hui,
on n'en est plus là. Ouais.
Non, mais c'est exactement. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de la représentation historique, on se dit, bon, mais comment, est-ce que ça a un impact à long terme? C'est un impact qu'on n'a pas encore tout à fait bien mesuré sur le long terme, parce que c'est un champ d'études qui est assez récent, mais en émergence vraiment de façon exponentielle. Donc, dans une société de jeux vidéo, évidemment, il existe beaucoup de compagnies avec des façons de faire qui sont très différentes. Mais ceci dit, il y a toujours, dès qu'on fait un jeu vidéo historique, il faut prendre le parti pris qu'on ne sait pas tout et qu'on ne pourra pas tout faire. Donc soit on accepte que le jeu aura une échelle plus réduite et qu'on essaiera de reproduire à l'identique ou une tentative d'immersion assez authentique, ou on essaie de faire une échelle qui est un peu plus large et qui prend beaucoup plus de liberté artistique et technique.
Alors c'est vrai que si je reprends les propos de Maxime Durand, on fait un petit procès là, je vais devant en disant mais finalement vous nous racontez un récit historique mais il est un petit peu tronqué ou il est un petit peu simplifié, etc. Mais finalement, Olivier Coquart, vous êtes bien placé pour savoir, ne serait-ce qu'un récit historique quel qu'il soit, même un historien, c'est déjà une lecture de l'histoire. Mais c'est sa lecture aussi, une subjectivité.
J'ai l'habitude d'expliquer à mes étudiants lors d'un des tout premiers cours que l'histoire c'est une science parce que c'est de la poésie. C'est-à-dire qu'elle invente le passé qu'elle traite, qui par définition n'existe plus puisque ce que je viens de vous dire, c'est déjà dans le passé. Mmh. Et si ça se trouve, on a tous entendu des trucs différents. Donc, on ouvre un roman fondamentalement pour se distraire. Et parfois, ce roman historique nous amène à nous poser des questions sur mais pourquoi Henri IV, pourquoi Louis XIII, D'Artagnan, qui sait, etc. Mais parfois, si cette question, on ne se la pose pas, ça n'est pas grave si on a passé un bon moment avec le roman. Ce qui est le cas de 95% des lecteurs. Il en va de même pour les jeux vidéo, c'est ce que vous disiez. On prend un jeu vidéo parce que la couverture vous a plu, parce que vous en avez entendu parler, parce que des youtubeurs en font la promo. Et on ne le prend pas a priori pour apprendre des trucs.
Vous disiez même dans vos écrits, Romain Vincent, qu'il peut y avoir aussi un autre effet un peu négatif parfois dans ces jeux vidéo un peu historiques, c'est un effet de dépolitisation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Alors, peut-être pas tous, mais si on reprend l'exemple d'Assassin's Creed Unity par exemple, même si, c'est quand même un peu paradoxal d'utiliser ce contexte de la Révolution française. Alors Jean-Luc Mélenchon en a parlé évidemment. Mais quand on joue à ce jeu-là, on s'aperçoit que notre avatar, pendant toute l'expérience de jeu, est très passif politiquement. Et que c'est vrai qu'on a des missions parfois un peu contradictoires. Je m'en rappelle d'une où on doit aider la révolutionnaire Théroigne de Méricourt, mes souvenirs sont un peu vagues, à nourrir le peuple de Paris, me semble-t-il. On a cette mission-là, et un peu après, vous aurez une mission où il faut sauver le fils de Louis XVI en prison. Il n'y a pas vraiment d'orientation politique claire dans ce jeu-là, et ce qui parfois correspond, parce que certains joueurs veulent pas spécialement avoir un jeu qui leur fasse la leçon à ce niveau-là. Après, les gros jeux de guerre qu'on a nommés tout à l'heure, les Call of, les Battlefield, oui, l'exemple de Battlefield V qui est sorti en 2018, c'est un jeu qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, mais jamais dans le récit, qui dure 10 heures, je pense, à peine, on le fait en 10 heures, jamais on emploie le mot Hitler ou nazi. En 10 heures sur la Seconde Guerre mondiale.
Et c'est quoi, c'est pour, parce qu'on a, on a pas envie d'être polémique, d'effrayer, c'est quoi l'idée, parce que
bah, si c'est ça, c'est grave, enfin, être polémique en employant le mot nazi pour la Seconde Guerre mondiale, ça devrait aller quand même.
Ah, mais c'est pour ça que je vous pose la c'est question ça, en bah, fait, pourquoi c'est,
je sais pas, faudrait demander aux développeurs de DICE, qui sont des développeurs suédois, si je dis pas de bêtises. Alors que Call of Duty le fait plutôt, Medal of Honor aussi, mais enfin, c'est vraiment une question assez curieuse. Et le Battlefield V nous fait incarner dans une mission, la dernière mission du jeu, on incarne un Peter Muller, qui est le commandant d'un équipage de tigres, de tanks, donc. Et c'est très curieux, ils nous font incarner donc des nazis sans nous dire formellement que ce sont des nazis, vers la fin du conflit. Et on a une mission que j'ai analysée un petit peu sur ma chaîne, mais très curieuse, où on ne veut pas trop dire qu'ils sont nazis, parce que on nous ferait jouer à des nazis, du coup, et ça serait un peu compliqué quand même. Mais du coup, en nous mettant absolument pas en contexte, ça donne une mission, hyper fade.
Oui, qui perd de son sens et de son enjeu, effectivement, et oui. Historique et politique. Pardon, depuis Montréal, Maxime Durand, vous souhaitez réagir?
Ben en fait, moi, une des grandes questions que je me pose souvent dans les jeux vidéo, c'est est-ce que le joueur doit être placé dans la peau d'un personnage ou de soi-même comme avatar, avec un regard naïf sur chacune des périodes avec lesquelles le joueur interagit. C'est-à-dire que pour pouvoir la comprendre, elle doit être mise en exposition, et c'est pas toujours le cas, en effet. Et je me demande, est-ce qu'on est toujours dans le récit un peu de voyage, un peu comme les auteurs le faisaient au 17e, 18e siècle, où on décrit les choses, parfois on les juge, parfois on peut pas les juger parce qu'on les comprend pas. Donc c'est ça. Pour moi, il y a toujours cette question-là avec les jeux historiques, à quel point on peut rendre le personnage auteur de sa propre aventure, ou est-ce qu'on est toujours confiné un peu dans l'aventure qui nous est proposée par le jeu, puis par l'angle qui est pris par le jeu.
Ça, effectivement, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'on joue avec son personnage, ou est-ce que finalement c'est un peu de nous-mêmes qui est envoyé dans le jeu, et on voit que justement toutes les tendances nous poussent plutôt vers des expériences immersives où c'est soi-même qui sommes plongés dans des univers un peu virtuels. On en parlera tout à l'heure, mais pour l'heure, je vous propose plutôt un voyage avec Lana Del Rey, États-Unis, Video Games. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I say you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild dots, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun. Playing video games. Et oui, Video Games par Lana Del Rey qui passe ce soir dans le meilleur des mondes consacré aux jeux vidéo et à la manière dont ceux-ci transmettent nos récits historiques.
Les nouvelles du meilleur des mondes, François Saltiel.
Mais comme chaque vendredi, on passe aux nouvelles du meilleur des mondes et les nouvelles passent, elles aussi. On apprend chaque jour un peu plus, sur les travers du métavers, l'univers virtuel immersif promis par Mark Zuckerberg, un espace décrit comme incontrôlable, selon les mots du directeur des nouvelles technologies du groupe. Étonnant aveu d'impuissance venu d'un cadre de méta, vous le savez, c'est le nouveau nom du groupe Facebook, Andrew Bosworth, qui alerte donc sur la manière dont la nature immersive pourrait exacerber les comportements toxiques, notamment à l'endroit des femmes et des minorités. Il se demande bien comment repérer et agir contre ces futurs comportements délictueux. La modération impliquerait de surveiller des milliards de comportements en simultané. Et pour ceux qui ont écouté notre émission du meilleur des mondes de la semaine passée, tout cela est déjà très difficile à gérer dans notre écosystème, la modération. Alors, quid du métavers ? Une manière sans doute pour Facebook d'ouvrir déjà le parapluie, lui qui en ce moment doit faire le dos rond. Cela n'empêche pas le groupe d'ouvrir des appétits. Nous venons d'apprendre que la marque Nike était déjà sur les starting blocks pour proposer et vendre ses Air Jordan dans le métavers. Bref, du côté de Meta, on avance à pas feutrer sur les problématiques de harcèlement, mais on saute à grands pas sur les perspectives économiques et le tout en virtuel Air Jordan. Bonne nouvelle pour les utilisateurs américains qui disposent d'un iPhone cassé. Alors la bonne nouvelle, c'est pas vraiment qu'il soit cassé ce téléphone, mais qu'il est désormais possible de tenter de le réparer seul ou en se procurant officiellement des pièces détachées ou de faire appel à n'importe quel technicien. Jusque là, vous le savez peut-être, la marque à la pomme conservait scrupuleusement son monopole des réparations en passant par des endroits agréés. Tout cela n'était pas très inclusif et cohérent pour une marque qui depuis ses débuts aime bien se faire passer pour un libérateur, à l'enfermer plutôt ses utilisateurs dans un univers technique verrouillé. Alors comment expliquer ce revirement ? Eh bien par la peur du gendarme, puisque l'entreprise craint un éventuel passage au Congrès des lois anti-monopole promues par Joe Biden. Elle préfère donc lâcher un peu de lest plutôt que de se faire rattraper plus durement par la patrouille. Lorsque la pomme s'offre en partage, il faut toujours se méfier. Et on termine par le Clapcoin. Le Clapcoin, qu'est-ce que c'est ? Clap comme un clap de tournage de film et coin comme une pièce de monnaie. Oui, il s'agit bien d'un projet de crypto-monnaie destiné à financer des œuvres cinématographiques. Et derrière cette nouvelle devise, on trouve la productrice Sarah Lelouch, la fille de Claude, qui parraine l'opération, même s'il avoue qu'il n'a pas entièrement compris comment fonctionnait la crypto-monnaie. Eh bien, je crois qu'il est loin d'être le seul, Claude Lelouch. Voilà pourquoi, avant la fin de l'année, nous proposerons une émission du meilleur des mondes pour tout reprendre depuis le début, en misant à fond les ballons sur la vulgarisation. Tout ça pour ça. Voilà pour les petites nouvelles du meilleur des mondes, petite parenthèse dans notre aventure vidéo ludique, pédago-ludique de cette émission du soir consacrée aux jeux vidéo. Maxime Durand, on n'a pas encore prononcé le nom de Discovery Tour, qui est pourtant au centre de notre problématique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Discovery Tour que vous dirigez ?
Donc déjà, le Discovery Tour, c'est une adaptation du jeu Assassin's Creed ou de la série du Assassin's Creed qui permet de réutiliser les univers sans les conflits, sans le scénario de jeu de base. Donc on peut aller un peu partout et puis on a la capacité de découvrir des tours guidés ou des quêtes et de découvrir des marqueurs historiques qui nous en font apprendre plus sur l'histoire de la Grèce, de l'Égypte et de l'époque des Vikings, mais également sur la conception des jeux et la façon dont les équipes travaillent pour montrer ces éléments-là à l'écran. Le Discovery Tour, c'est un jeu qui est gratuit pour les possesseurs d'Assassin's Creed et qui est également disponible en version PC pour les gens qui désiraient acheter que le module du Discovery Tour. Et ce qui est important de dire, c'est que là où Assassin's Creed est normalement classé pour jeunes adultes, le Discovery Tour, lui, a une classification qui est accessible. Donc, on parle, par exemple, le dernier Discovery Tour sur l'ère viking qui est à PEGI 7. Donc, ce sont deux expériences assez différentes avec des univers qui se ressemblent beaucoup mais qui nous permettent de nous immerger dans une représentation du passé.
Oui, et puis là pour le coup on est à fond dans la version justement pédagogique parce que là il s'agit plus justement de jouer, de tuer, d'attaquer. On est vraiment comme si on était en balade touristique immersive dans une autre époque. Comment vous est venue l'idée justement de développer cet aspect-là du jeu vidéo, ou du moins de vos productions ?
c'est venu de par plusieurs personnes et pour plusieurs raisons. Entre autres, il y avait justement des enseignants qui nous racontaient ou qui utilisaient Assassin's Creed avec toutes les problématiques que cela leur posait depuis la sortie du tout premier Assassin's Creed en 2007. Donc, il y avait ça d'un côté. Il y avait également des musées qui désiraient obtenir des façons d'utiliser Assassin's Creed dans leur exposition et qui étaient bloqués par certaines problématiques qui sont similaires à celles des enseignants. Et puis, bien, il y a aussi des joueurs, il y a des familles qui désiraient découvrir les univers du jeu et puis qui étaient limitées un peu par le jeu lui-même, soit par la durée, soit par la classification d'âge ou par le manque de capacité technique. Donc ça, c'était la motivation externe, mais à l'interne de l'entreprise, c'est vraiment une motivation qui est venue de plusieurs personnes qui voulaient être généreux, en fait. Je prends mon cas personnellement. Moi, j'ai toujours aimé les jeux vidéo historiques. Je suis devenu historien parce que ça m'intéressait. J'ai travaillé en musée. Et puis, je me disais, quand même, ça serait génial de pouvoir rendre ces univers-là disponibles pour ceux qui ont envie de le visiter.
Voilà, et c'est ce qui fait, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, que des Discovery Tours sont donc présents dans plusieurs musées en France, hein, voire même, je crois, il me semble, devant Notre-Dame. D'ailleurs, il y a une petite élément du jeu vidéo. Donc là, on a vraiment le jeu vidéo qui s'installe dans les musées. Alors vous, justement, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de votre objet d'étude, d'analyser comment ces jeux vidéo sont à la fois perçus par les élèves, mais aussi par les enseignants. Romain Vincent, quelle est votre analyse, justement, sur l'outil pédagogique du Discovery Tour? Donc je le rappelle, c'est plus vraiment un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on a enlevé toute la partie gameplay de ces productions-là pour s'intéresser uniquement sur les vertus pédagogiques, ou du moins l'aspect pédagogique du jeu.
Oui, on a dégamifié un petit peu Assassin's Creed pour justement faire place à un peu plus de culture historique, c'est-à-dire que à l'intérieur du Discovery Tour, du moins dans les deux premières versions, vous avez en effet une forme de pédagogie relativement classique, en fait, qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, vous arrivez devant des bâtiments, le Parthénon, par exemple, à Athènes, vous appuyez sur un bouton et donc vous avez une visite guidée qui se lance. Donc ça c'est très intéressant. Après, comme on dit depuis le début de l'émission presque, hein, ça veut dire un petit peu ce que ça veut dire, c'est que pour vraiment apprendre l'histoire dans les jeux vidéo, faut mettre un petit peu l'activité ludique de côté, notamment. Et quand vous parliez tout à l'heure de l'insérer dans les musées ou dans les écoles, il y a aussi un effet de contexte qui est extrêmement important. C'est-à-dire que on peut pas étudier les apprentissages les apprentissages tout court, en fait, sans le contexte.
Qu'est-ce que vous voulez dire par effet de contexte, justement, de le jeu vidéo dans les écoles?
C'est-à-dire qu'on a parfois l'habitude de parler de ludification de l'histoire quand on met du jeu vidéo à l'école. Moi, je me refuse un petit peu à l'employer parce que c'est pas ce que j'observe. Moi, je parle plutôt de scolarisation du jeu vidéo. C'est-à-dire comment on va le transformer pour en faire un outil pédagogique. Ce qu'il n'est pas à la base, en fait. C'est un jeu. Et ce qu'on remarque, dans mon corpus de thèse, j'ai beaucoup de matières. J'ai pas mal de cours d'histoire, mais j'ai aussi d'autres choses. Et à mon sens, de mes premières observations, c'est en histoire où la transformation du jeu est le plus importante. Parfois, on le transforme en document qu'on va analyser comme autre chose, ce qui pose parfois des problèmes parce que c'est pas une disposition parfois logique pour des élèves, en fait, d'envisager un jeu comme un document au sens que l'enseignant a.
Alors, parfois il l'envisage comme un document, et parfois aussi l'enseignant peut s'en servir pour proposer justement des aventures à ses élèves en se servant sur la base du jeu. Je vous propose d'écouter justement un extrait dans une classe d'un professeur, William Brew, qui utilise activement ces jeux vidéo avec ses élèves.
Donc elles se sont fait déborder à l'église, il faut avancer. L'infanterie compte sur nous.
C'est un cours d'histoire et de géographie qui va vous permettre de réétudier la Première Guerre mondiale, mais pas vraiment la Première Guerre mondiale, de voir et d'analyser une représentation de la Première Guerre mondiale. L'objectif, et on est d'accord là-dessus, c'est d'écrire une lettre à partir de l'expérience combattante que vous montre le jeu. D'accord ? Aussi incohérent peut-il être. L'objectif, c'est que vous vous inspiriez de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous faites dans le jeu pour écrire une lettre. Rajoute-moi du ressenti, des émotions, rajoute-moi des trucs. Qu'est-ce que t'as pu entendre comme voix?
Je trouve que c'est plus facile à apprendre quand on voit ce qui se passe que d'écrire. On voit réellement ce qui se passe et c'est plus flagrant.
L'idée, c'est vraiment de changer les supports, changer le rythme de la classe. Faut pas le faire tout le temps, faut le faire de temps en temps.
faut le faire de temps en temps, nous dit William Brault, professeur d'histoire géro. Ça, c'est un extrait donc d'un reportage qui a été fait par Combini. Olivier Coquart, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, ce jeu vidéo qui rentre comme ça dans une classe de collège avec un prof d'histoire géo qui s'en sert comme un support pédagogique?
Je regrette, moi, de n'être plus en collège, mais j'essaye de le faire avec les étudiants que j'ai. Cela arrive parfois. Il faut, comme William Brault le dit, faut pas le faire tout le temps. C'est un support parmi d'autres. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la façon dont il le présente, qui est c'est une représentation à partir de laquelle il n'est pas question il faut pas dire que c'est de la vérité. C'est une représentation. Comme toujours face à des représentations, un certain nombre d'élèves, et c'est net dans ce qu'ils disent, disent « ouais, là, on voit vraiment ». Mais c'est un peu comme lorsqu'ils voient un film ou lorsqu'ils sont devant un bon roman. L'important, c'est qu'on leur ait dit, à un moment donné, n'oubliez jamais, cela n'est qu'une représentation à partir de laquelle on peut travailler, parce que de toute façon, un historien ne travaille qu'à partir de représentations. Et donc, moi, je suis très très intéressé par le travail de William depuis quelques années déjà. Hein, je pense que à tous les niveaux, nous avons à y réfléchir, parce que ça pose plein de questions épistémologiques, techniques, pédagogiques et scientifiques qui sont passionnantes.
Alors justement, Romain Vincent y réfléchit. Il veut réagir.
Alors je connais très bien cette séquence très très médiatique, on va dire, et je la trouve problématique. Je la trouve problématique sur plein d'aspects. Il y a un implicite dans ce qui est demandé par l'enseignant vis-à-vis de ses élèves. Alors évidemment, pour nous, profs d'histoire, historiens, c'est super intéressant d'analyser des représentations, mais faudra repasser limite la première phrase. Hein. Ce qu'il dit à ses élèves. On va étudier la Première Guerre mondiale, mais pas la Première Guerre mondiale, une représentation de la Première Guerre mondiale. De toutes mes observations de thèse, dans ces cours, on veut travailler ce qu'on va appeler l'esprit critique avec ses élèves. Les élèves, les plus fragiles notamment, ont tendance à être un peu perdus par ce jeu de va-et-vient entre la fiction et ce qui est présenté comme le réel. Et malheureusement, dans le reportage, on entend. Un élève nous dit, on voit ce qui se passe. Et toute personne qui a joué à Battlefield 1, enfin, je sais pas, enfin, faudrait que les auditeurs, je sais pas ce qu'en pensent les auditeurs, mais Battlefield 1 est un jeu indigent sur la Première Guerre mondiale. C'est un super jeu vidéo, vraiment, qui propose des choses en plus intéressantes. Mais si on le replace dans un angle éducatif, c'est catastrophique. Et cette séance, je la déconseille assez fortement, surtout qu'elle a été présentée ici sous un angle médiatique, avec aucun recul, et je trouve ça problématique.
Donc là, en tout cas, ce soir, on la présente avec un recul, et votre analyse. Non, mais je rebondis juste sur vos propos. Vous dites, attention, ça peut être dangereux parce que les enfants vont se dire, tiens, c'est comme si ça se passait, c'est la vérité. Sauf que je reprends vos propos à vous, Romain Vincent, tout à l'heure, quand on parlait justement du soft power à l'intérieur des jeux vidéo, vous disiez, je pense quand même que les joueurs, ils sont pas aussi stupides que ça et qu'ils arrivent à comprendre que c'est qu'un jeu, etc. Donc on pourrait dire la même chose. On pourrait dire, ces élèves qui sont face à ces jeux bien accompagnés par un professeur, parce que je pense qu'un professeur d'histoire jeu qui fait bien son travail ne dit pas, regardez, la Deuxième Guerre mondiale, ça se passait comme ça. Il dit, tiens, les jeux vidéo, ça vous intéresse, vous y jouez beaucoup, vous y jouez...
Très exactement très... ce que dit William.
Voilà, et il dit, voilà ce que tu vois.
Oui, mais c'est pas ce qui se passe en classe. Bah, c'est-à-dire que ce qui est expliqué en classe, en fait, vous avez un
classe,
effet...
tous les élèves entendent exactement ce que le professeur veut leur dire.
Non, mais c'est pas
sur ce point-là
que je veux dire, mais...
Oh,
il y a un effet de légitimation du jeu vidéo quand il rentre à l'école. Ça, je l'explique dans un papier à apparaître dans la revue.
Mais est-ce que c'est grave qu'il y ait un effet de légitimation pour le jeu vidéo? Est-ce que c'est problématique que le jeu vidéo rentre à l'école et que justement il bénéficie de cet effet de légitimation?
Mais non, mais il y a un souci dans le fait de faire une pédagogie du faux pour aller vers le vrai. Parce que, encore une fois, et il y a beaucoup de recherches qui le prouvent en sciences de l'éducation.
Tout document est faux.
Mais je suis d'accord. Alors, pourquoi le montrer aux élèves avec un effet de réel qu'il a sur eux?
Mais parce que dans tout document faux, il y a un effet de réel. Bah, sinon, on ne fait plus d'histoire.
Enfin, moi, je me rappelle de ma... Je commence à être vieux maintenant, je me rappelle de ma jeunesse. Et au collège, on regardait aussi des films. Vous avez tous vécu ça, hein, dans des cours d'histoire géo, où on va nous montrer un film historique, mais qui lui aussi est par définition un document qui, à sa manière, est faux, puisque c'est des mises en scène, c'est des comédiens, c'est une histoire qui est simplifiée. Mais sauf qu'un bon prof d'histoire, il vous dit, voilà, ce film, il a été fait par telle personne, par des Américains ou par des Français, donc c'est une vision. Mais tiens, ça nous fait un support pour pouvoir en parler, pour pouvoir témoigner. Il me semble... Ça me semble pas plus que ça, en fait, sauf adapté aux outils du 21e siècle.
Quand il étudiait de cette manière-là, en fin de chapitre, quand les connaissances ont été acquises, d'accord, ce qui n'est pas explicitement le cas ici. En plus, il y a une institutionnalisation, à mon avis, un peu plus poussée, en plus des savoirs que peuvent, entre guillemets, transmettre le jeu, puisqu'il y a l'écriture d'une lettre derrière. Donc, à mon avis, ça consolide encore plus. Mais ce que vous dites là, en effet, est vrai, c'est que l'école, et c'est pas que sur le jeu vidéo, hein, légitime les pratiques culturelles. Quand vous avez justement le film qui est utilisé en cours d'histoire, il a un effet documentaire, très clairement.
Oui, c'est vrai.
Il faut faire attention, parce que si on reprend le sujet de la Grande Guerre, je pense quand même qu'il y a, dans les productions cinématographiques, beaucoup plus d'œuvres un peu plus poussées que ce que nous propose Battlefield 1. Et si on revient sur le jeu vidéo, Soldat Inconnu, Eleven Memories Retold ont déjà un propos un peu plus poussé que Battlefield 1, qui est un jeu qui rend la guerre amusante.
Petite question que je pose justement à Maxime Durand, hein, qui, je rappelle, hein, développe justement entre autres ses Discovery Tours pour l'éditeur Ubisoft, éditeur français très très important à l'échelle mondiale et donc qui publie toute la franchise Assassin's Creed. Le fait que vous rentriez à l'école, si je me fais un petit peu l'avocat du diable, pour vous c'est un peu génial en tant qu'éditeur, c'est-à-dire que vous avez quand même votre jeu vidéo qui est quand même quelque chose qui se vend, qui va être indirectement promu à l'école. Est-ce que vous voyez ça comme quelque chose de très positif aussi pour votre image, pour votre communication?
Ce serait fou de le nier, mais évidemment, c'est pas la motivation première, parce que faire un projet comme celui-ci, c'est vraiment né d'une passion de l'équipe. Je peux les citer, ça vient de moi-même, ça vient de Jean Guédon, qui était directeur créatif, qui l'est toujours. Et c'est nous qui avons monté un plan en faisant les démarches avec les universités pour faire des études scientifiques. On parle d'études qui sont en cours depuis 2017 et qui nous aident vraiment à moduler la façon dont on crée le Discovery Tour. Donc oui, nécessairement, il y a un effet de légitimation, tout comme on le faisait avec le film, avec les autres médiums, on pourrait certainement citer que les manuels scolaires sont édités par des sociétés privées qui font du profit. Je pense que c'est un premier degré de lecture. Ensuite, peut-on parler de motivation pour les élèves de se rendre en classe? Avec nous, les données qu'on détient, c'est la motivation, elle est à son meilleur lorsque les élèves savent qu'ils vont pouvoir participer à une activité qui inclut le jeu vidéo, alors lorsqu'elle était exceptionnelle. Ils arrivent à l'heure, ils partent lorsque le cours se termine, ils ne se lèvent pas pour aller à la salle de bain. Bon, c'est un peu caricatural, mais il y a aussi au niveau des notes, si l'enseignant s'approprie bien l'outil, à ce moment-là, il y a vraiment une valeur au niveau des notes et il y a une répercussion réelle. Et là, c'est pas moi qui invente ça, ce sont donc les données, entre autres, de l'Université de Montréal, mais ce sont des études qui sont faites également à d'autres échelles. On parle d'institutions comme l'Éducation nationale en France, son alter ego en Italie, qui s'intéresse aussi à ce projet-là, évidemment, en essayant d'aller chercher un répertoire d'élèves qui est assez large pour avoir une validité scientifique. Et pour nous, ça, c'est nécessaire.
Et juste une petite question de proportion, parce qu'effectivement, William Rowe, Romain Vincent l'a rappelé tout à l'heure, est assez médiatique. Mais du coup, s'il est assez médiatique, ça veut dire qu'ils ne sont peut-être pas 200 000 à faire ça. C'est quoi la proportion justement des enseignants en collège et en lycée qui vont utiliser des jeux vidéo? Est-ce qu'on a une idée, une notion? Est-ce que c'est un usage qui est largement repris, fréquent ou encore un peu lors de l'épiphénomène?
Je crois qu'on est quand même dans le phénomène selon les différents pays et différentes régions, et surtout dans la façon dont ils approchent l'utilisation du médium. Étant situé à Montréal, nous, évidemment, on a beaucoup de contacts avec les écoles et des regroupements scolaires ici au Québec. Et puis, on parle quand même de plusieurs milliers d'élèves à chaque année qui utilisent le Discovery Tour dans des contextes qui sont très différents. Lorsque je parle de contextes différents, c'est soit un enseignant qui projette le jeu à l'écran, donc il n'y a aucun événement de participation pour les apprenants, ou encore, on parle de groupes de 2 à 4 élèves, parfois en solitaire, qui vont jouer directement au jeu et là, leur enseignant ou leur enseignante leur ont demandé de faire une quête en plus de ce que le jeu propose. Donc, pour vraiment aller chercher les apprentissages qui sont reliés à leur région et à leur réalité propre.
En tout cas, tous nos débats sont intéressants. Ils montrent d'ailleurs que c'est encore marrant que le jeu vidéo porte en lui justement encore des notions de débat. C'est vrai que vous en avez rappelé tout à l'heure qu'il a eu un effet de diabolisation au début. On se dit voilà, le jeu vidéo c'est des trucs pour des cérébrés, etc., qui suscitent de la violence. Puis après il y a un phénomène de dédiabolisation du jeu vidéo. On arrive maintenant à une autre approche, mais on voit encore qu'il porte en lui une tension que d'autres médias n'ont plus. Alors je ne sais pas s'il en est de même pour la réalité virtuelle dont on va s'intéresser aujourd'hui avec Léa Léane Picron, qui est chef de projet au sein de la société Render et qui propose de ressusciter notre patrimoine détruit ou disparu à travers des reconstitutions historiques grâce justement à cette technologie. Est-ce que vous êtes bien avec nous, Léane Picron ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, quels sont les outils qui vous permettent d'offrir ces reconstitutions aux visiteurs ? Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu l'usage et le fonctionnement ?
Alors, on a développé donc Légendeur, qui est une application qui vous propose de découvrir de manière ludique des lieux partout en France, avec comme point fort des reconstitutions historiques inédites. Donc, par exemple, si vous visitez des ruines gallo-romaines, on va vous immerger au même endroit, mais 2000 ans en arrière. Donc, en fait, c'est très simple. Vous téléchargez donc Légendeur sur votre smartphone. C'est gratuit. Vous allez ensuite à l'office de tourisme de la ville qui vous intéresse. Et sur place, on vous donnera un code secret pour lancer le parcours. On vous donnera aussi une paire de lunettes de réalité virtuelle pour bénéficier des expériences immersives. Donc, alors
Allez-y, je vous en prie.
L'objectif n'est pas de passer son temps sur le téléphone. Au contraire, Légendeur, c'est vraiment un guide de visite. Donc, il va vous indiquer le chemin à suivre et différents points d'intérêt. Quand vous arrivez à un point d'intérêt, vous allez avoir accès à différents médias, donc du texte et de la narration audio qui vont vous expliquer l'histoire du lieu devant lequel vous vous trouvez, mais aussi des prises de vue 360 degrés. Si le lieu en face de vous est fermé parce que pour des raisons de sécurité ou de conservation, et des reconstitutions en réalité virtuelle. Donc pour ça, en fait, vous mettez le téléphone dans les lunettes de réalité virtuelle et là, vous allez voyager dans le temps en découvrant le monument tel qu'il était au Moyen-Âge, durant l'Antiquité, pendant la guerre ou après la guerre.
Alors j'imagine, justement, pour rebondir sur les débats qui nous animent là depuis le début de cette émission, vous travaillez avec des historiens. Comment vous faites pour concevoir toutes ces vues, toutes ces immersions ?
Alors en fait, on travaille directement avec les personnes du territoire puisque ce sont eux qui connaissent le mieux leur patrimoine. On travaille avec les historiens, les chargés du patrimoine et médiation et les archivistes pour co-construire ces parcours de visite.
Et qu'est-ce que vous avez observé justement dans l'impact parmi les visiteurs ?
Alors on construit nos parcours pour qu'ils durent environ 1 heure, 1h30. On a remarqué qu'en fait, les visiteurs passent beaucoup plus de temps sur place. On a par exemple un couple de touristes anglais qui a passé 6 heures à Pont de l'Arche dans l'heure.
Fallait les débrancher au bout d'un moment.
Hein. on voit aussi, aux Andelys, on a mis en place un parcours. Avant, les visiteurs passaient moins d'une heure sur place parce qu'il n'y avait pas trop de médiation au Château Gaillard. Aujourd'hui, on a mis en place donc un parcours avec Légendeur et il passe jusqu'à 2h30 sur le site. Donc on voit vraiment une évolution en fait sur le temps passé sur place. Pont de l'Arche, c'est pareil, c'est une ville qui avait très peu d'offres touristiques, voire pas du tout. Et on a mis en place le parcours l'an dernier et ils ont eu 3000 visiteurs sur la saison pour une ville qui n'avait pas d'offres touristiques et qui n'a pas d'office du tourisme.
Et alors, est-ce que justement cette tendance un peu de revivre l'histoire presque au présent, est-ce que vous pensez que c'est vraiment quelque chose qui marque notre époque, c'est certain, mais qui va véritablement être une démarche d'avenir ? Est-ce que demain, finalement, on vivra l'histoire ou on vivra l'histoire de plus en plus grâce à ces outils et de la vivre avec interactivité, comme je le disais, presque au présent ?
Actuellement, on a déjà 70% du patrimoine historique qui est inaccessible au public parce qu'il est occupé par du privé ou du public, mais aussi pour des raisons de sécurité et de conservation. Aujourd'hui, le public ne pourra plus jamais accéder à certains lieux parce qu'il faut les protéger. Et donc, en fait, ça va être une manière à ce qu'ils renouent en fait, avec ce patrimoine, qu'ils ne peuvent plus voir vraiment toucher, voire être immergés dedans. Donc, c'est une nouvelle immersion via le numérique. Donc oui, c'est face à toutes ces problématiques de sécurité et de conservation, c'est effectivement très pertinent de développer ce type de dispositif pour garder ce lien en fait avec le patrimoine.
Bien, merci beaucoup Léane Picron de nous avoir expliqué votre projet de la cité Render et j'invite bien sûr tous les auditeurs et auditrices intéressés à se rendre sur votre site internet pour comprendre encore plus réellement tout votre dispositif virtuel. Olivier Coquart, c'est intéressant ce que nous dit quand même Léane Picron, c'est-à-dire que il y a des installations, des monuments qui seront inaccessibles et on va permettre de les revivre grâce à une immersion virtuelle. Mais en même temps, philosophiquement, c'est un peu compliqué, c'est que parce qu'on ne peut plus voir finalement la vraie chose, on va la donner à voir de manière virtuelle. Ça pose des questions quand même, ça, à l'historien, non ?
Ça pose plein de questions qui reviennent à la question d'une des missions qu'on attribue souvent à l'histoire, qui est de faire revivre le passé, en essayant de déplacer cette mission du discours de l'historien vers des objets techniques. Et en fait, Non, c'est ça va donner éventuellement aux gens d'autres portes d'entrée dans l'histoire. Ils vont savoir que grâce au travail des vrais historiens, de ceux dont c'est le métier, eh ben on peut reconstituer Pont d'Arche, on peut reconstituer les Andelys, on peut reconstituer la conciergerie à ces différentes époques. Et ça c'est absolument magique. De la même façon que le micro s'était éloigné. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de moyens permettant de reconstituer les robes, les habits d'antan. De la même façon qu'on peut reconstituer des combats de gladiature avec une fiabilité beaucoup plus importante que celle dont disposait les réalisateurs de films états-uniens des années 1950, etc. Et donc pour moi, ça s'apparente à ce désir de mieux connaître, de mieux pénétrer l'histoire par tous les biais possibles. Il se trouve que nous sommes dans une société qui nous offre de merveilleux biais nouveaux.
De merveilleux biais nouveaux. Dernière question sur ce sujet-là. Romain Vincent, justement, je parlais du métavers tout à l'heure dans le journal des nouvelles du meilleur des mondes. Est-ce que c'est pas vraiment une tendance? Parce que le métavers, ça va être un monde virtuel et immersif constant. Est-ce que ce sera pas justement une des voies où on va pouvoir revivre comme ça le passé au présent et aller au maximum de l'expérience?
Je ne sais pas, parce que là, de tout ce qu'on parle là, depuis quelques minutes, on parle surtout de reconstitution visuelle. Mm-hmm. C'est très bien, hein. Après, la reconstitution de l'univers social, des mentalités de l'époque, ça pose aussi ces questions-là, je pense.
Et ça, c'est
oui, bien sûr.
Bien sûr, mais ça, c'est ce que peut-être, si on interviewait Mark Zuckerberg, il nous dirait que ça serait totalement possible avec les différents avatars et comédiens qui vont peut-être se vivre dans son monde. Mais ça serait effectivement pour le meilleur ou peut-être pour le pire. Mais c'est le meilleur qui arrive avec la chronique de Marcus Dupont-Bénard qui nous a rejoint en studio. Bonsoir Marcus.
Bonsoir François.
Alors, vous allez revenir justement sur les jeux vidéo et un certain genre de jeux vidéo, puisqu'on a quand même parlé d'interactivité dans cette émission, qui vous a particulièrement touché.
C'est vrai, parce que on va totalement changer de sujet, mais il y a quand même un lien, vous allez voir, parce que Olivier Coquart, vous avez abordé l'intérêt de la représentation visuelle, mais il y a aussi l'interactivité. C'est l'un des avantages des jeux vidéo, c'est ce qui aide à transmettre des connaissances historiques, c'est ce qui peut aider à susciter l'intérêt dans une classe, c'est ce qui aide à s'impliquer, mais en fait ça va beaucoup plus loin que le cas des savoirs historiques. L'interactivité est capable d'abaisser une grande part du rempart entre nous et le virtuel.
Alors est-ce que vous avez un exemple? J'imagine que oui.
Oui, c'est le but de cette chronique, effectivement. Et j'ai un exemple qui est même assez intime, je vous dirai juste après pourquoi. Eh bien c'est la saga Life is Strange qui m'a bouleversé comme rarement je l'étais derrière un écran. C'est un jeu vidéo dit narratif. Il y a très peu de ce qu'on appelle le gameplay. Ça consiste pas vraiment à combattre des méchants, ni à escalader des murs, ni à faire de l'infiltration. Il s'agit d'une histoire humaine que vous pouvez influencer par vos décisions, un peu comme les livres dont vous êtes le héros, ou encore le fameux épisode de Black Mirror qui est interactif sur Netflix et dont je n'arrive jamais à prononcer le nom, mais je pense que si vous connaissez, vous verrez à quoi je fais référence. Certaines décisions donc que vous prenez dans Life is Strange, lors d'un dialogue, d'une action, pourront changer le cours du scénario et même la fin du jeu. Comme dans la vraie vie, ou presque, le cours des événements se dessine en fonction de vos choix. Par exemple, dans le premier jeu de la saga, l'héroïne a un pouvoir, remonter le temps. Alors forcément, ça permet d'expérimenter ce fameux effet papillon. Et puis s'ajoute une histoire déchirante avec une enquête sur la disparition d'une adolescente ou encore les retrouvailles amoureuses entre les deux héroïnes, Maxine, et Chloé. Eh bien, je vous avais dit que c'était une chronique intime, et je vais vous confier une chose. En jouant à Life is Strange, eh bien, j'ai pleuré. Et oui, ça m'a retourné l'estomac à de nombreuses reprises. Je me souviens m'être couché un soir après un épisode et avoir réfléchi aux choix que j'avais fait dans le jeu. Les barrières de l'empathie se sont écroulées à mesure que je jouais. Je me sentais totalement impliquée. Et j'ai un exemple, est-ce que ça vous parle si je vous parle de ces musiques que parfois on réécoute et ça nous ravive des émotions, des souvenirs très forts?
Bien sûr, parfois heureux, parfois malheureux.
Par exemple, François, Hysteria de Muse, ça nous rappelle l'émission du meilleur des mondes, dédiée aux dystopies, avec beaucoup de joie, évidemment. Eh bien, je ressens cette même sorte d'émotion avec certaines musiques diffusé au cours de Life is Strange. C'est dire à quel point la barrière de l'empathie s'est écroulée. Alors, le dernier opus de la saga est sorti à la rentrée 2021 et épouse encore davantage la question de l'empathie en l'intégrant carrément dans le jeu. la nouvelle héroïne Alex Chen est une empathe. Je vous laisse découvrir ce que ça signifie avec la bande-annonce.
Je ressens les émotions des autres. Je vois des espèces d'aura autour des gens. S'ils sont en colère ou tristes ou s'ils ont peur, je le ressens aussi. Quand je me concentre, je peux même comprendre pourquoi ils ressentent ça. Et si les émotions sont intenses, elles m'infectent et je perds le contrôle. Je n'avais encore jamais parlé à personne.
L'empathie est une mécanique humaine qui est au centre de Life is Strange, mais pas seulement, hein, mais aussi pour beaucoup d'autres jeux vidéo. Par l'interactivité, en nous donnant les manettes d'un autre monde, peut-être passé, on nous offre une expérience narrative très nouvelle. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne qu'avec un livre ou avec un film. Elle est différente, elle apporte une autre dimension. Ne négligeons pas l'impact que cette nouveauté peut apporter dans notre société pour une autre approche des savoirs historiques ou des émotions.
Merci beaucoup Marcus Dubon-Bénard pour cette confidence, et c'est intéressant puisqu'on est passé de la grande histoire à l'histoire personnelle, l'histoire intime, et ceci avec le véhicule justement des émotions. Maxime Durand, j'imagine que l'émotion de toute façon elle est au centre aussi de vos projets et de vos productions, puisqu'avec l'émotion on peut finalement quasiment tout faire passer, la petite comme la grande histoire.
Que nous avons pris sous la création du dernier Discovery Tour Viking Age, qui n'est plus une expérience muséale comme on l'a fait sur les deux premiers épisodes. On vit plutôt une quête et c'est vraiment basé sur la force de l'immersion, mais la force de l'empathie et la force des choix du joueur également. Donc on vit l'histoire sous deux angles, sous l'angle d'un couple viking ou norse, donc de Thorstein et Gunhilda, qui ont un désir de s'établir en Angleterre alors qu'ils veulent partir de la Norvège. Et de l'autre côté, mais on vit l'histoire d'un moine anglo-saxon qui s'appelle Elrich, et puis qui lui vit entre autres le fait d'être une victime de la présence des Norse. Évidemment pas que cela, mais ils ont chacun leur motivation intrinsèque et on vit leur aventure. Et ça nous fait apprendre parce qu'on le vit. On vit lorsque Elrich subit une attaque dans le monastère et lorsqu'il doit choisir entre défendre sa vie ou essayer de sauver les reliques sacrées du monastère. Et là, ben, ça nous permet vraiment de vivre ce moment-là important dans l'histoire et qui est essentiel dans notre compréhension de l'époque viking.
Oui, alors effectivement, là, ça, c'est l'approche immersive au plus haut point pour essayer de comprendre l'histoire passée, sinon pas par l'empathie, mais par le jeu vidéo qui nous permet de nous mettre en situation pour essayer de le vivre, même si on est bien d'accord qu'il s'agit de représentations, Olivier Coquart, et puis parfois de représentations qui, selon vous, Romain Vincent, sont pas toujours utilisées à bon escient si on revient sur justement le cadre pédagogique et les nuances que vous avez apportées. D'ailleurs, votre thèse, vous la soutenez quand? Vous la terminez bientôt?
C'est pas prévu encore. Je vais passer en phase de rédaction en 2022.
Phase de rédaction en 2022, en tout cas, on a hâte de la lire pour aller encore un petit peu plus loin dans vos propos et dans votre thèse. Merci à tous de m'avoir accompagné pour cette émission du meilleur des mondes où on a tenté de revivre l'histoire des jeux vidéo qui se prêtent aux jeux historiques avec notamment Assassin's Creed. Merci pour vos éclairages et vos nuances. Je remercie à la préparation de cette émission Juliette Deveau qui a été sur toutes les parties et dans tous les aspects de cette émission, à la réalisation et aux manettes Vanessa Nadjar, et à la technique ce soir c'était Félix Delacour. Le meilleur des mondes s'est terminé, je vous donne rendez-vous évidemment vendredi prochain à la même heure pour s'intéresser aux coulisses de l'influence. Oui, tout un programme.